Je voudrais, avant la prière, lire de l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 1. Levons-nous pour la prière. L'évangile de Jean, dès le premier verset. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, membre du haut conseil des Juifs. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu en tant que docteur, car personne ne peut faire des miracles comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « comment un homme peut-il naître s'il est un vieillard? Peut-il entrer pour la seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jusqu'ici, cette parole, verset 7, prions. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ce jour et pour cette occasion d'être rassemblés devant ta face. Dans le saint et précieux nom de Jésus. Je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu parles encore le même langage. Encore aujourd'hui, tu appelles des hommes et tu sauves des hommes. Et tu leur donnes de naître de nouveau, car tout ce qui est cher est cher. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé Seigneur, je te demande maintenant que ta parole, comme semence divine dans chaque cœur, puisse tomber. Que ton esprit puisse venir sur tous et opérer une nouvelle naissance, Seigneur, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton esprit et par la puissance de ta parole. Bien-aimé Sauveur, je voudrais à tous ceux à qui je pouvais prêcher ta parole, je voudrais tous les revoir auprès de toi dans la gloire. Accorde ta grâce au Seigneur pour que ton esprit puisse souffler, agir, opérer, que nous ressentons que tu es présent et que ce ne sont pas seulement, que ce soit pas seulement des entretiens spirituels, mais une parole de Dieu avec nous. L'action du Saint-Esprit parmi nous, salut, guérison, délivrance, tu es le même, tu es ressuscité. Nous nous attendons aujourd'hui, nous comptons sur ta présence. Nous te remettons tout, Seigneur, entre tes mains. Accorde ta grâce pour parler, accorde ta grâce pour écouter. Ôte tout ce qui dérange, ôte tout de nous et de parmi nous, du milieu de nous. Que tu puisses te frayer un chemin glorieux et que tu puisses placer un signe parmi ton peuple et tracer un chemin, le haut chemin des rachetés, et accorde que nous puissions marcher dans l'obéissance sur ce chemin pour que ton bon plaisir soit sur nous, puisse se reposer sur nous et que tu puisses ressentir de la joie sur nous et que nous soyons dans ta volonté Ô Seigneur, fais-nous grâce et bénis, Seigneur, ton héritage. Tu connais aussi toutes les requêtes, toutes les supplications, les difficultés. Nous te les apportons tous dans la foi. Tu ne viens jamais trop tard. Seigneur, je te remercie pour cela. Que maintenant, tous ceux qui ne peuvent pas être ici et qui sont dans des difficultés, qui puissent ressentir que nous prions pour eux. Et encore plus, qu'ils expérimentent que tu exauces nos prières et que tu réponds et que tu es devenu leur secours dans leur détresse. Bénis avec nous tout ton peuple dans l'adoration sur toute la terre. Nous te remercions déjà maintenant pour la bénédiction que tu nous donneras aujourd'hui par ta grâce, à ton merveilleux nom, à ton merveilleux, glorieux nom que nous aimons, que tu nous as révélé. Ton nom, à lui soit l'honneur, la louange et la gloire dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la foi, nous voulons nous attendre à ce qu'il se manifeste. Nous attendre à ce qu'il sauve. Nous attendre à ce qu'il guérisse. L'attendre directement, maintenant, ici, dans la foi. L'attendre. S'attendre à ça. Alors qu'il était chanté, j'ai dû penser, hier, il y a 14 jours, c'était ainsi qu'après la réunion à Helsinki, nous étions assis à 5 dans une voiture et subitement, il y a un monsieur âgé qui me dit, « Frère Franck, j'étais présent quand le jeune avait perdu sa vie par un accident de voiture et de nouveau a été ramené à la vie, ressuscité des morts quand Frère Branham autrefois, ici, en Finlande, a tenu les réunions. Cela a vivifié en moi beaucoup de choses dans ma mémoire. Et il était encore maintenant visiblement saisi de ce que Dieu avait fait autrefois. Beaucoup, beaucoup d'années, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, l'a touché de rendre de remettre ce témoignage et de dire ce qu'il l'a vu de ses propres yeux, entendu de ses propres oreilles et vécu personnellement. Mais bien aimé, les prophètes devaient tous repartir, mais Dieu n'est pas mort avec eux. Dieu n'est pas parti avec eux. Il est resté avec nous et sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous nous attendons simplement à une grande manifestation de la puissance de Dieu. Sa puissance est encore aujourd'hui la même, car il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Maintenant, venons à l'observation de la parole. Je voudrais commencer avec Apocalypse 1. À chaque fois, quand nous avons des réunions particulières quelque part, cela me inonde mon cœur de nouveau quand je pense au privilège que Dieu nous a accordé de comprendre sa volonté, son plan par sa parole et d'avoir une vue d'ensemble dans ce qu'il fait dans nos jours. Ça, c'est le grand privilège qu'un homme pourrait s'imaginer et recevoir. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait connaître et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes. Et celui-ci rend désormais témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ à tout ce qu'il a vu. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Pour moi, ici, il s'agit simplement de ce que nous remarquons. Quel soin Dieu a laissé se manifester en toutes choses. Jean nous est connu comme le bien-aimé disciple de Jésus, comme un apôtre que le Seigneur avait appelé. Et subitement, ce n'est plus le titre d'un apôtre qui est utilisé, mais l'expression « mon serviteur », en relation, donc « knecht », en relation avec la prophétie, en relation avec le dessein du salut de Dieu, l'apôtre est subitement le serviteur de Jésus-Christ, le knecht. Et vous allez voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, à utiliser les prophètes et inspirer les prophètes et les apôtres. Comment est-ce que même le choix des mots était exact, comme aucun homme le planifier, quand de notre Seigneur les différentes désignations sont écrites, par exemple, fils de l'homme, ou bien alors fils de Dieu, ou bien alors fils de David. Alors cela a aussi toujours sa signification, son sens et sa légitimation. Jamais les choses n'ont le droit d'être échangées dans leur place et leur contexte. Ils doivent rester là où ils sont écrits dans le contexte bien précis et nulle part ailleurs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit autrefois? Vous allez désirer voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le recevrez et vous ne le verrez plus. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera de la foi sur terre quand il viendra? Si aujourd'hui, ou alors quand aujourd'hui on parle du Fils de Dieu, alors on entend le monde, on voit le monde entier, n'est-ce pas? Écouter, accepter, si même en le faisant, ils dorment spirituellement ou pas, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ils acceptent malgré tout. Mais dès qu'on parle du Seigneur en tant que Fils de l'homme, qui marche parmi les sept chandeliers d'or, qui dans sa main tient les sept étoiles, les sept anges des sept églises, alors là, déjà, on se heurte à la première résistance. Alors, les gens peuvent plus suivre spirituellement parce qu'ils n'ont pas intégré la partie prophétique de l'histoire du salut dans le programme divin. L'avantage que Dieu nous a donné, c'est d'équilibrer la partie de l'évangile avec la partie de l'enseignement et la partie prophétique. D'équilibrer les trois parties et de les intégrer tous dans la prédication. Nous voulons que dans chaque réunion, un homme qui n'a pas encore expérimenté personnellement Dieu reçoive la possibilité de consacrer sa vie au Seigneur. Aucun culte ne doit avoir lieu sans que les pécheurs ne soient appelés à se repentir, sans que le salut de Dieu soit prêché. Ça, c'est le noyau, ça, c'est le centre. Ensuite, suit l'enseignement. Et cet enseignement, en fait, est adressé à ceux qui sont déjà nés dans le royaume de Dieu. Et aussi pour la dernière partie, la partie prophétique, nous sommes aussi très, très reconnaissants. Notez ici la déclaration répétée avec le terme « mes serviteurs ». Apocalypse, chapitre 1. révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour faire connaître à ses serviteurs, Knecht, à ses serviteurs ici, les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, donc Knecht, Jean, par des signes. Je lis cette parole connue d'Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Mais dans les jours où la voix du septième ange retentira, où il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera alors accompli, comme il a fidèlement communiqué à ses serviteurs. Donc ici, Knecht, les prophètes, comme un joyeux message. Toujours de nouveau, nous trouvons dans tout l'Ancien Testament cette relation et cette désignation. Ses serviteurs, les prophètes, comme Knecht. Et la même chose dans le livre prophétique du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, comme nous venons de le voir ici. De nouveau, tel qu'il l'a fidèlement communiqué à ses serviteurs. Donc ici, Knecht, les prophètes, comme un joyeux message. Amos 3, 7 est aussi connu de tous. Et malgré tout, je voudrais encore une fois le lire. Amos chapitre 3, au verset 7, le texte suivant est écrit. Amos chapitre 3, verset 7. Non, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Ici, Knecht. Au verset 8. Le lion a rugi. Qui ne serait pas effrayé? L'Éternel Dieu a parlé. Qui ne parlerait pas comme prophète? En vérité, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a pris le livre. Il a ouvert les sceaux. Il a révélé le contenu. Et il nous a introduits dans les mystères cachés. Je lis dans Job le premier chapitre. Job le premier chapitre. Là, les anges se sont rassemblés devant Dieu l'Éternel. Je voulais en fait lire dans Exode, dans Job, pardon, 2. Mais je pourrais lire dans Job 1, verset 8, et puis ensuite dans Job 2, verset 3. Ici, dans Job 1, verset 6. La deuxième partie. As-tu bien pris garde à mon serviteur? Ici, Knecht, Job, car il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre. Aussi pieux et droit, aussi craignant Dieu et ennemi du mal. Maintenant, chapitre 2, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Satan, as-tu pris garde à mon serviteur? Ici, Knecht, Job. Car, donc, Dieu a eu ses serviteurs et prophètes qu'il a envoyés matin et soir. Des hommes qui avaient leurs deux pieds ici sur cette terre, mais et qui vivaient, qui étaient dans la vie comme tous les autres hommes, mais dans leur cœur et en esprit étaient liés avec Dieu et étaient au ciel, ayant les deux pieds sur terre. De tels hommes, c'est ce que Dieu veut faire de nous, qui, dans tous les domaines terrestres, reste normal et sobre et réagit normalement et réagissent normalement et sobrement et se conduisent et marchent normalement comme tous les autres hommes, mais en même temps avec leur cœur et en esprit sont dans le céleste, dans le divin, ayant les deux pieds sur terre. Ça, ce sont les hommes qui sont agréables à Dieu. Et chacun qui vraiment est béni de Dieu dans le domaine terrestre, il restera normal et sobre. Il agira normalement et sobrement. il se conduira ainsi. Si un enfant de Dieu, dans le domaine terrestre, n'agit pas ne peut pas agir sobrement et normalement, comment est-ce qu'il pourrait agir et se conduire et marcher dans le spirituel sobrement? Ce sont deux domaines qui n'ont pas le droit d'être mélangés l'un avec l'autre. Et nous pouvons, au même moment, être dans les deux domaines et nous trouver bien dans les deux par la grâce de Dieu. Je continue à lire car je voudrais vous montrer en raison de cette expression serviteur, comment est-ce que les voies de Dieu ont été depuis le début. Deutéronome chapitre 35, ici nous lisons le verset 5. Deutéronome 34, verset 5. 34. C'est là que mourut Moïse, le serviteur, Knecht, le serviteur de l'Éternel, au pays de Moab, sur l'ordre de l'Éternel. Alors si nous considérons aujourd'hui le mot Knecht, donc mon serviteur, il ne doit pas être considéré comme un asservissement, comme un esclave. Ici, ce n'est pas un esclave. Le mot « mon serviteur », pas seulement un serviteur, mais mon serviteur. Cela exprime une disposition à Dieu. Être entièrement à sa disposition. Des hommes que Dieu pouvait utiliser, sur qui il pouvait compter, à qui il pouvait confier une tâche, qu'il pouvait envoyer, qui se tenaient à sa disposition. C'était des outils, des instruments, des hommes à qui Dieu avait adressé sa parole. Déjà dans cette semaine, ils ont été appelés des dieux parce que la parole de Dieu vint à eux et qu'ils avaient la grâce de la porter. Dans Josué, le premier chapitre, le premier verset, il est écrit « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Knecht, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur, ici c'est Diner en allemand, pas Knecht, Diner, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout terrain et tout sol que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai promis à Moïse. » Une parole merveilleuse. Il y a eu des temps dans lesquels Dieu avait donné des promesses. Et ensuite, il y a eu des temps dans lesquels les promesses données s'accomplissaient. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sur chaque terrain et sur chaque sol sur lesquels nous plaçons notre pied de la foi, nous ont été donnés de Dieu. Nous devons seulement avoir le courage et savoir que Dieu nous l'a promis. Et si nous savons ce que Dieu nous a promis, alors nous devons ensuite avoir le courage de placer nos pieds de la foi sur cette promesse de Dieu. En étant convaincu, dans la conviction que Dieu est fidèle et qu'il accomplit et accomplira et réalisera ce qu'il a donné, ce qu'il a promis. Allons directement dans le Nouveau Testament, car je voudrais vous montrer que la partie prophétique, réellement, par l'Ancien et le Nouveau Testament, de la même manière, se réalise dans Tite, le premier chapitre, le premier verset. Nous lisons. Tite, chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, un serviteur, Knecht, un serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité, qui s'éprouve par une conduite pieuse, en raison de l'espérance de la vie éternelle, que le Dieu infaillible a promise avant les siècles, mais il a fait connaître sa parole au temps fixé par la prédication dont j'ai été chargé de la part de Dieu, notre Sauveur. Notre Sauveur. Oh, quelle parole merveilleuse. Toujours. Il a souvent utilisé cette expression. Moi, un apôtre de Jésus-Christ, un prédicateur, un enseignant. Il a utilisé plusieurs désignations. Et ici, moi, Paul, un serviteur de Dieu, Knecht, et apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire un envoyé. Mais pas seulement un envoyé, mais un homme envoyé de Dieu, par Dieu, par le Seigneur, un envoyé du Seigneur. Et celui qui a été envoyé, il doit savoir qui l'a envoyé, qui l'envoie, et pour quelle raison il a été envoyé, avec quel mandat, avec quelle charge. Est-ce que vous comprenez cela? Quelle est la mission? Alors que le Seigneur va appeler ses disciples autrefois, il disait, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups, au milieu des loups. » Il a appelé, il a mandaté, commissionné et envoyé. Vous savez que notre Seigneur aussi dans l'Épître aux Hébreux est appelé lui-même apôtre. Nous regardons cela. Il nous a dit de regarder à Jésus-Christ, l'apôtre de notre foi. Dans ce contexte, il était un envoyé. Il avait le ministère prophétique comme fils de l'homme. Hébreux 3, verset 1, c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais en tout temps ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. » Il était un envoyé. Les Saintes Écritures emploient aussi, en ce qui concerne le Seigneur, le mot « serviteur », donc « knecht ». Beaucoup sortent là-dessus, mais moi, pas du tout. Alléluia, comme c'est précieux. Comme de manière multiple et variée, la sagesse de Dieu est. Ésaïe 42. Les choses sur lesquelles les gens trébuchent et sortent et n'en finissent pas, c'est justement ce qui est précieux pour nous. C'est justement ça, par la grâce de Dieu, qui nous relèverait. Ésaïe 42. Verset 1. Voici mon serviteur, Knecht, auquel je tiens, mon élu, en qui mon cœur prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il porte le droit aux nations. Il ne poussera pas de cris et ne fera pas de bruit, et sa voix ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche fumante. Il fera connaître fidèlement le droit lui-même. Le verset 4 d'Ésaïe 42 maintenant, ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Les terres maritimes attendent déjà son instruction. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Je peux là de tout mon cœur suivre. Notre Seigneur était dans ce domaine serviteur, Knecht, pour accomplir ici sur cette terre la volonté et faire la volonté du Dieu Tout-Puissant. Il a dit dans le livre, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, me concernant. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Les serviteurs, Knecht et les prophètes ont annoncé la volonté de Dieu, le salut, la grâce et le pardon. Ils l'ont annoncé au peuple de Dieu. Et maintenant est venu celui sur lequel le bon plaisir de Dieu se reposait, sur lequel l'Esprit de Dieu se reposait. Maintenant vint celui qui devait établir le droit sur la terre, la justice, l'établir fermement ici sur cette terre. le droit et la justice. Il est écrit qu'il ne criera pas et qu'il ne fera pas de bruit et que sa voix ne se fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche fumante. Bien-aimé cœur, bien-aimé âme, bien-aimé frère et sœur, bien-aimé ami, ça c'est notre Seigneur dans son abaissement. Tout ce qui était divinité en lui, il s'en est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur, Knecht, et a habité parmi nous. Et il est écrit, l'homme, le Fils de l'homme n'est pas venu. Et il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se laisser servir, mais pour servir. Ici, sur cette terre, il a dû suivre ce chemin, car lui seul était capable de faire la volonté de Dieu, de la mettre en pratique, de l'exécuter. Tous les autres avaient été eux-mêmes coupables. Tous les autres ne pouvaient pas le faire. Il était le seul. C'est en lui que Satan n'avait aucun droit, parce qu'il n'était pas né de la manière ordinaire, mais engendré par l'Esprit de Dieu. C'est peut-être la raison qu'il pouvait porter tout sur lui et établir fermement sur cette terre le droit et la justice de Dieu, tel qu'il est écrit. Les terres maritimes attendent déjà son instruction. Lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit. Il relit le verset 4 sur la terre. Et il l'a fait dans son abaissement. Continuons à lire dans 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 16. Ici, la chose suivante est exprimée. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 16. Ici, il est écrit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ici, Knecht. Et je voudrais relever cela. Le mot Knecht, le mot serviteur, n'est pas à comparer avec le mot esclave ou bien asservissement. Non plus à comparer avec, comme c'est écrit dans Jean 5, Jean 15, le Seigneur a dit, un Knecht, un serviteur, n'a pas de vue dans ce que son maître fait. Ici, il s'agit de ce que des fils et des filles de Dieu peuvent être des serviteurs et des servantes, comme Marie a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » C'est ça la disposition des fils et des filles de Dieu dans leur cœur. Je suis la servante, je suis le serviteur de l'Éternel qui me soit fait comme tu veux, fais de moi, qui me soit fait comme tu t'es proposé de le faire. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, ici l'apôtre exprime encore une fois cette pensée. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24, ici il est écrit, le serviteur de l'Éternel ne doit pas être querelleur, mais bon envers tous, instructeur, compétent, capable de supporter le mal avec patience. Et pour reprendre avec douceur ceux qui s'opposent, afin de savoir si Dieu ne leur accordera pas de se repentir pour connaître la vérité. Afin qu'ils redeviennent sobres et se dégagent des pièges du diable, après s'être laissés prendre par lui pour être soumis à sa volonté. Remarquez-vous de quoi il s'agit ici? Une fois, d'abord, nous sommes soumis à Dieu dans la parole de la vérité, dans la grâce de Dieu, sur le chemin dans lequel le Seigneur nous conduit. Mais si nous abandonnons, quittons le chemin de Dieu, quittons la volonté de Dieu, alors, comme nous venons de lire dans la parole de l'Écriture, nous sommes tombés dans le piège du diable pour ensuite lui être soumis. Lui être soumis. Les hommes doivent prendre leur décision. Qui est-ce qu'ils veulent servir? Qui est-ce qu'ils, à qui est-ce qu'ils veulent être soumis? À qui est-ce qu'ils veulent appartenir? Et je crois que Dieu a pris cette décision pour nous. Nous avons seulement fait que dire oui à cela. Nous avons seulement dit, Seigneur, me voici, fais avec moi ce qui te plaît. Qui de vous, vraiment dans la prière, a déjà pu dire ça au Seigneur? Me voici, Seigneur, fais de moi, fais avec moi ce qui te plaît. Je mets ma volonté, je soumets ma volonté à ta volonté. Je mets ma volonté dans ta volonté, selon la parole de l'Écriture, aussi comme le Seigneur, dans son abaissement, a dit. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite comme tu le veux, ce que tu veux. Est-ce que vous voyez la disposition du Seigneur? C'était comme ça avec tous les serviteurs, Knecht et les prophètes de Dieu. Mais manifesté dans la réalité, cela a été vraiment en Jésus-Christ notre Seigneur. Les prophètes ont tous eu des manquements. Ils ont tous failli. Ils ont annoncé la volonté de Dieu. Mais ils n'étaient pas capables en tout point d'exécuter la volonté de Dieu. Mais dans notre Seigneur, la volonté de Dieu a été parfaitement exécutée ici sur cette terre entièrement. Et c'est accompli entièrement. Et il y a une écriture dans l'Épître aux Hébreux. J'espère que je la trouverai. Ici, il est écrit que c'est par cette volonté que nous avons aussi été, une fois pour toutes, sanctifiés. Vous pouvez sûrement lire cela dans Hébreux 10. Oui, c'est écrit ici déjà. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Et en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aurons pu, à genoux, avec tous nos efforts et en suppliant, jamais nous aurons pu faire la volonté de Dieu. Jamais nous aurons pu atteindre le bon plaisir de Dieu. Mais par lui, celui sur qui le bon plaisir de Dieu se reposait. Selon le double témoignage des Saintes Écritures, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Matthieu chapitre 3. Et puis ensuite, Matthieu chapitre 17. Sur la montagne de Transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Bien alors, d'autres traductions disent, écoutez-le, c'est lui que vous devez écouter. Et là, nous venons à cette parole, toute âme qui n'écoute pas ce prophète sera exterminée de mon peuple. Ceux qui n'écoutaient pas les prophètes le ressentaient et devaient le payer. Mais celui qui n'écoute pas le Seigneur, qui est en forme humaine dans son abaissement, comme serviteur, comme Knecht, comme fils de l'homme ici, marchait sur terre, et qui nous parlait. Celui qui ne l'écoute pas, son âme, l'âme de cette personne, sera exterminée du peuple de Dieu. Et là, je pense à cette parole d'Hébreu. Si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, s'ils n'ont pas échappé, s'ils ne sont pas restés sans punition, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Hébreux 12, verset 25. C'est en Christ que Dieu a parlé avec nous. C'est en Christ que Dieu nous a agréés, nous a sauvés, nous a affranchis. Et c'est en lui que le mur de séparation a été ôté. Une réconciliation totale et une union, une réunification, une réconciliation a eu lieu avec Dieu. Peut-être que je devrais lire encore le verset 9 dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde comme étant valable. Et en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ça, c'est l'évangile, le plein évangile de Jésus-Christ. Un évangile merveilleux, un message divin qui peut être expérimenté par tout un chacun qui le croit. Nous pouvons aujourd'hui l'expérimenter. Les vérités bibliques te servent seulement à quelque chose si elles sont devenues des vérités expérimentées personnellement par toi, si elles sont devenues une expérience personnelle, pas seulement des vérités qui sont écrites dans la Bible, mais des vérités expérimentées personnellement. Une conversion doit être une conversion qu'on a expérimentée personnellement, une nouvelle naissance qu'on a expérimentée personnellement, un renouvellement qu'on a expérimenté personnellement, un baptême d'esprit et de feu qu'on a expérimenté personnellement, des expériences avec Dieu nous rapprochent de Dieu et font en sorte que la bénédiction de Dieu se déverse sur nous avec puissance et abondance. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, matin et soir, et ensuite lui-même, il s'est manifesté en forme humaine dans le Fils de l'homme pour ici, sur cette terre, établir fermement la droiture, le salut, la vérité, la justice divine, tout pour l'établir fermement et pour nous les mettre à notre disposition pour que nous puissions dans la foi en profiter et que nous puissions ainsi recevoir ce que Dieu nous a préparé en Christ, que nous puissions vraiment le recevoir, l'expérimenter personnellement. Est-ce que nous voulons le faire aujourd'hui? Qui veut aujourd'hui recevoir tout, vraiment tout, la réconciliation, le pardon, le salut, la grâce, le renouvellement, la nouvelle naissance, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême d'esprit et de feu, aujourd'hui, la restauration, la restitution, tout ce que Dieu a promis et ce qu'il nous a préparé et mis à notre disposition en Christ. Qui veut le recevoir de Dieu? Amen! J'ai là une écriture pour nous tous. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son Fils. C'est en lui que Dieu nous a donné le oui. C'est en lui que Dieu nous a donné le amen. Dieu a dit je veux. Il a donné le amen. Il a donné le oui et ensuite il a dit c'est accompli, c'est à votre disposition. Amen, ainsi soit-il, ainsi est-il. Et nous pouvons l'accepter dans la foi. Dieu a ici sur cette terre accompli son œuvre. Si nous avons compris cela, alors nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos de toutes nos propres œuvres et nous nous reposons dans l'œuvre que Dieu a accompli pour nous. Je voudrais encore dans l'épître de Jacques, dans Jacques, le chapitre 1, ici il est écrit à partir du verset 1. Jacques, chapitre 1. Moi, Jacques, serviteur de Dieu, donc Knecht, et du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie mes salutations aux 12 tribus qui vivent dans la dispersion. Je peux encore lire le prochain verset. Considérez comme une pure joie, mes frères, d'être soumis à diverses épreuves. Vous savez que, en effet, Vous savez en effet que la mise à l'épreuve de votre foi produit une persévérance constante. Mais la persévérance doit conduire à une pleine activité afin que vous soyez parfait et irréprochable et qu'à aucun égard il se manifeste en vous de défaut. Jacques était aussi l'apôtre qui, au 5e chapitre, parlait de la restauration que Job avait reçue de Dieu. Ici, il écrit dans Jacques 5, à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, le verset 11, peut-être le verset 10 et 11. Frères, prenez pour modèle de souffrance et d'endurance, de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous appelons bénis ceux qui ont enduré patiemment. Vous avez entendu parler de l'endurance inébranlable de Job et de l'issue que le Seigneur lui a préparée. Sachez par là que le Seigneur est riche en compassion et plein de miséricorde. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela en ce temps, nous qui nous attendons au retour du Seigneur Jésus-Christ? Nous devons, parce que Dieu a fait en Job, le considérer dans la foi et dire, Seigneur, ce que tu as fait autrefois, tu le feras encore une fois maintenant. Tu restaureras, rétabliras, tu accorderas une double portion, car tu as la plénitude. Nous pouvons voir la fin que le Seigneur a préparée à Job. Mais la persévérance doit être mise à l'épreuve et conduire à la pleine activité. Jacques 1, verset 4, « Afin que vous soyez parfaits et irréprochables, et qu'à aucun égard il ne se manifeste en vous de défaut. » Je voudrais, avec nous tous, ensemble, expérimenter cet état, voir cet état, que tous les défauts soient ôtés et que vraiment, nous ayons la plénitude, pas seulement des gouttes, mais le fleuve que nous puissions recevoir, la plénitude, le fleuve de la bénédiction que personne n'a besoin encore de demander. Est-ce que Dieu est avec vous? Mais qu'on puisse dire, que les gens puissent dire, comme on le dira avec les Juifs, comme laissez-nous aller avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Que des hommes viendraient avec nous parce qu'ils ont entendu que Dieu est au milieu de nous. Maintenant, dans le temps de préparation, que ce soit des paroles de promesse. Mais ici, laissez-moi dire cela très clairement. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui fait des paroles. Il est aussi un Dieu d'action. Dieu se tient avec l'action derrière sa parole et avec sa parole en action. Il ne se reposera pas jusqu'à que sa volonté ait été exécutée et qu'il ait achevé son œuvre sur terre, qu'il ait pu accomplir son œuvre sur terre, achever son œuvre sur terre. Dans l'évangile, nous trouvons de notre bien-aimé Seigneur de nouveau une parole très merveilleuse qui va dans cette direction. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, verset 34. Jésus leur répondit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Et d'accomplir son œuvre. Je pense là à une parole du prophète Ésaïe. Ça devrait être le chapitre 28. Ici, le Seigneur a aussi insinué quelque chose de semblable. J'espère que je trouverai. Parfois, je lis dans la Bible anglaise souvent et ici, mais c'est toujours dans le même chapitre, si, mais pas toujours en haut à gauche. Hein? Là, dans la Bible allemande, c'est un peu. Donc, dans Ésaïe 28, au verset 21, car comme au mont Pérazim, Ésaïe 28, verset 21, l'Éternel se lèvera comme dans la vallée près de Gibeon, il tremblera de colère pour faire son œuvre. Une œuvre étrange et pour exécuter son travail. Un travail inhabituel. Amen, gloire à Dieu. Il se lèvera. Qu'est-ce que nous avons toujours dit? Il y a certaines choses que Dieu a confiées aux prophètes et aux apôtres. Et ensuite, il y a des choses qu'il fait lui-même. Quand il s'agissait de la rédemption, le Seigneur lui-même a intervenu. Il est devenu sauveur. Quand il s'agit de l'édifice de l'édifice de l'église, alors il a dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts de l'enfer ne prouveront pas contre elle. » Il n'a pas dit, « Pierre, tu es une personne bien, tu le feras. Tu le feras bien. » Non, non. Nous faisons qu'annoncer la parole, que prêcher la parole. Mais c'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui baptise d'esprit et de feu. C'est lui qui ajoute ceux qui doivent être sauvés à l'église, pas à toi et moi. Il ajoute ceux qui sont sauvés, pas à toi et moi. Nous ne faisons que prêcher la parole. Et pendant que nous prêchons la parole, le Seigneur parle directement aux hommes. Ça, je le crois. Si je ne croyais pas à cela, qu'aujourd'hui c'est Dieu qui nous parle, j'arrêterais. Mais je sais que c'est lui qui nous parle. Et qu'il y a des hommes ici qui savent exactement que c'est Dieu qui leur adresse sa parole et que et que Dieu leur a parlé. Comment est-ce que Dieu devrait parler? Il devrait faire entendre sa voix du ciel, retentir audiblement? Non. Il envoie sa parole pour guérir. La prédication de l'évangile est apportée dans le monde entier et elle a pour un seul objectif et sens, c'est que des hommes rencontrent Dieu et que la volonté de Dieu et le dessein de salut de Dieu leur soient révélés. Et encore plus que là, plus que ça, que des hommes soient sauvés et soient introduits dans la volonté de Dieu, dans le dessein du salut de Dieu et soit inséré par la grâce de Dieu dans son dessein du salut. Moi, je veux, en tant que prédicateur de l'évangile, et je pense que nous tous qui écoutons la parole de Dieu, nous remarquons, n'est-ce pas, que c'est une réalité divine, n'est-ce pas? Que la parole est vivante et qu'elle est une réalité divine. Si le Seigneur aujourd'hui lirait lui-même ici les Écritures, il pourrait parler à haute voix, bien à voix basse. Mais ça resterait la même parole. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, alors ça n'a pas d'importance à quel point le prédicateur élève la voix ou bien parle la voix basse. Si nous recevons la parole en nous, le ton de la voix n'a pas d'importance. L'Esprit de Dieu peut vivifier la parole et en produire son fruit. Donc, nous avons le sens. Nous avons compris le sens de la prédication. L'Évangile comme joyeux message pour ainsi montrer le dessein du salut de Dieu qui concerne la rédemption, le pardon, la grâce et le salut. Ensuite, la partie de l'enseignement pour nous, pour nous dire, voilà ce que le Seigneur a dit aux siens, voilà l'instruction qu'il leur adresse, voilà ce qu'ils doivent mettre en pratique et vivre. Et ensuite, la partie prophétique de l'histoire du salut qui maintenant, dans ces jours, arrive à sa fin, à son accomplissement. Et comme presque dans la parole d'introduction, je le disais, Dieu a fait en sorte que maintenant, sans fanatisme, tout simplement dans l'équilibre, avec sobriété, nous pouvons prêcher les plus grandes vérités bibliques et malgré tout, rester sobre. Mais avec une joie profonde, intime, être rempli. Parce que nous savons que Dieu nous a confié ses mystères. Le Seigneur a dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, il a parlé seulement en parabole. Mais aux siens, il a parlé ouvertement. Clairement, il leur a dit ce qui comptait. Et la même chose, nous pouvons aujourd'hui le dire comme témoignage. Le voile est ôté. Christ est dévoilé. La révélation de Jésus-Christ. Le dévoilement de Jésus-Christ. Et c'est en lui que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés. Et c'est en lui qu'ils ont été aussi révélés, les deux. Aux uns cachés, aux autres révélés. Je continue, je lis encore dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 2, verset 26. Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Ici, il est écrit, « Et à celui qui vaincra et persévérera dans mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, etc. » Apocalypse 2, verset 26. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui persévère dans mes œuvres jusqu'à la fin. Celui qui sera trouvé dans ce que Dieu fait. Celui qui voit ce que Dieu fait et qui permet à Dieu de le faire en lui, de le produire en lui, de le réaliser en lui. Celui qui peut dire, Seigneur, me voici. Insère-moi dans ce que tu fais maintenant. Fais-le en le faisant en moi, en le faisant en nous. Fais-nous devenir l'œuvre de tes mains aujourd'hui. Fais-nous devenir l'église que tu formes, qui sera sans tache, sans ride, irréprochable. Laisse-nous être l'épouse que tu appelles à sortir maintenant. Que tu sépares, que tu mets à part, que tu pars, que tu prépares pour le jour quand l'époux reviendra. Pas seulement être observateur, pas seulement être spectateur, mais être participant, prendre part, être une partie de ce que Dieu fait. Celui qui vaincra, je répète encore le verset pour que ce soit exactement. Et à celui qui vaincra et persévérera dans mes œuvres jusqu'à la fin. Et je pourrais sans faire violence à la parole, lire la phrase aussi dans l'autre sens. Celui qui persévère dans ses œuvres, conformément à sa parole et à ce qu'il fait, jusqu'à la fin, celui qui demeure jusqu'à la fin et qui y persévère, celui-là vaincra par la parole et par le sang. S'il y persévère, parce qu'il s'est soumis à Dieu, il s'est débarrassé de toute rébellion, il a abandonné toute pensée propre et toute voix personnelle. Il s'est laissé insérer dans les pensées de Dieu et s'est laissé conduire dans les voies de Dieu qui seul nous conduisent au but. Celui qui vaincra et persévérera dans mes œuvres jusqu'à la fin. Dieu agit. Et alors, nous voulons participer à cette action de Dieu jusqu'à la fin. Marcher avec lui, quoi qu'il en coûte. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Celui qui reste fidèle jusqu'à la mort. Celui-là aura la couronne de vie. Ce n'est pas le début, mais la fin qui sera couronnée. Et j'aimerais être là le jour où le couronnement aura lieu. Paul a dit une parole glorieuse dans sa lettre à Timothée. Il écrit que le Seigneur, le juste juge, lui donnera la couronne, mais pas seulement à lui, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition, donc l'apparition du Seigneur. J'ai déjà écrit la brochure suivante et j'ai trouvé cette parole ici. Je vous le lis volontiers. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée. Car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Alors que je lisais cela, une joie profonde m'a rempli. Combien ont existé depuis l'Église primitive qui se sont dit l'un à l'autre, Maranatha, le Seigneur revient, et qui ont prié, viens bientôt Seigneur Jésus. D'autres ont peut-être dit, ou ont pu dire, regardez, maintenant ils sont rentrés à la maison, ils sont décédés sans avoir vu s'accomplir ce qu'ils attendaient. Ne vous inquiétez pas. Ils ne se sont ni déçus, ni désavantagés. Ils attendent le jour où tous les réconciliés rencontreront ensemble le Rédempteur en même temps. Ils n'ont pas été déçus. Non. Ils sont entrés à la maison, chez eux, avec l'espérance vivante de voir le Seigneur. Selon la parole d'Écriture, que nous vivions ou bien que nous mourions, nous sommes la propriété du Seigneur. La mort ne fait que nous transporter dans l'au-delà. Elle n'a pas d'autre tâche à remplir que de nous transporter. Parce que je viens d'y penser, ce matin, j'avais pris un taxi. J'ai pris un taxi et un très vieil homme de Sydney est monté avec moi, il voulait monter avec moi, et j'ai dit, bien sûr, montez, s'il vous plaît. Et sur le très court trajet de Cloughton à l'aéroport, j'ai quand même pu lui dire quelque chose du Seigneur. Et il a dit, j'ai tout ce qu'il faut, j'étais riche et je suis devenu pauvre, a-t-il dit très brièvement. Et je ne sais pas ce que la vie va m'apporter. Et puis j'ai demandé, avez-vous réglé le problème de l'éternité? Et là, il a soudain prêté l'oreille et s'est dit quelque chose. Et il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré un homme qui m'a déjà parlé de cela. Et maintenant, vous le faites aussi. Et là, j'ai pu lui dire, le prix est déjà payé. Le mal est bien fait, a été réparé. Vous aussi, Dieu vous a fait grâce. Et il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il disait, bon, voici mon adresse, voici mon nom. Envoyez-moi tout ce que vous pouvez m'envoyer en littérature. Car Dieu, aujourd'hui, vous a mis au travers de mon chemin. Dieu a encore des gens. Un très vieux grand-père, peut-être dans les 80 ans. Oh, je voudrais le revoir au ciel. Oh, si Dieu pouvait nous envoyer ce sauveur. Quel amour pour les perdus par grâce. Qui parmi vous aime le Seigneur et son apparition? Amen, amen. Comment pouvons-nous aimer le Seigneur sans attendre sa venue, son retour? Attendre avec impatience que nous puissions finalement nous exclamer, viens bientôt, Seigneur Jésus. Résumons, Dieu avait ses serviteurs, Knecht et ses prophètes, il les avait dans l'Ancien Testament. Il avait ses serviteurs, Knecht et ses apôtres dans le Nouveau Testament. Et entre les deux, il y a celui qui vint en forme de serviteur, Knecht, et qui a fait la volonté de Dieu, qui a solidement établi le droit et la justice, qui a offert le salut et la grâce sur cette terre. C'est lui, c'est en lui que nous croyons. Nous l'acceptons de tout cœur. Nous le recevons et remercions Dieu pour cela, de s'être révélé en Christ lui-même et qui s'est ainsi approché de nous et s'est réconcilié avec nous en lui. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher le message de la réconciliation et dire à tous les hommes, à tous ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté personnellement, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La réconciliation a eu lieu. Dieu a tendu la main vers nous. Maintenant, cher cœur, tu dois accepter cette main tendue. Tu dois insérer ta main dans la main tendue de Dieu et dire, Seigneur, me voici. Retire-moi de tout. Fais de moi ton enfant, ta propriété. Pardonne-moi tout. Renouvelle-moi. Donne-moi la nouvelle naissance. Accorde-moi la nouvelle naissance. Oui, donne-moi la vie éternelle pour que je puisse vivre éternellement avec toi. Et je crois que Dieu le fera. Il l'a déjà fait. Accepte aussi la partie que nous avons lue dans Hébreux 10. Par cette volonté, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Il a accompli toute la parole, toute l'exigence de la loi. Il n'a pas commis d'erreur. Il était sans défaut. Pour enlever tout ce qui pesait sur nous par la transgression, pour l'ôter de nous. Notre châtiment a été mis sur lui pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Toi aussi, cher cœur, tu as été guéri. Accepte-le et remercie Dieu pour cela, ainsi que tous ceux qui ont déjà cru. N'en doutez pas. Mais croyez en Dieu afin que cela vous soit imputé à justice. Qu'est-ce qui a été imputé à justice? Qu'est-ce qui a été imputé à Abraham comme justice? La foi qui était liée à l'action. C'est la même chose pour nous. Dieu t'imputera à justice si tu crois de tout cœur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur et le Rédempteur. Et si tu sais que cela s'est fait, cela a eu lieu pour toi afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle par lui et en lui. Dieu avait des serviteurs, Knecht. Dieu avait des prophètes. Il a fait annoncer, puis il est venu lui-même, celui qui était serviteur, Knecht, et celui qui était prophète et qui a marché sur la terre sous forme humaine pour faire ici la volonté de Dieu. Ensuite, il a de nouveau des serviteurs, Knecht, et des apôtres pour montrer à l'humanité ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux un plan de salut, un dessein du salut de notre Dieu, achevé, arrondi, équilibré. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. S'il vous plaît, ne nous contentons pas seulement d'avoir ça sous nos yeux, mais soyons son œuvre, son ouvrage, et persévérons dans ses œuvres, dans ce qu'il opère, dans ce qu'il fait lui-même maintenant, jusqu'à la fin. Alors, nous aussi, nous compterons parmi les vainqueurs et serons présents lorsque le grand couronnement aura lieu ce jour-là dans la gloire. Comme il est beau que non seulement Jean, mais aussi nous puissions dire, il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, Knecht, les choses qui vont bientôt arriver. Il nous l'a montré. Nous ne sommes pas dignes de porter et d'utiliser son nom. Nous ne sommes pas dignes d'être interpellés par lui en tant que son serviteur, Knecht. Et pourtant, nous confessons humblement. Il nous a classés dans la même catégorie. Il s'est révélé à nous. Il nous a fait connaître sa parole et sa volonté. Je pense volontiers dans ce contexte au 2 avril 1962, lorsque le Seigneur a dit « Mon serviteur, Knecht, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. » Vous voyez de quoi il s'agit ici? Le lien avec tout le dessein du salut de Dieu. Pas mon évangéliste, pas mon ancien, mais mon serviteur. Knecht. Tel, donc comme il a révélé à ses serviteurs, Knecht au prophète, comme il a révélé à ses apôtres, à ses serviteurs, Knecht, ancien et nouveau testament. Dans l'ancien, serviteur, Knecht et prophète. Dans le nouveau, apôtre et serviteur, Knecht et apôtre. Comme la parole de Dieu est parfaite et précise, c'est pour moi tout simplement inconcevable. C'est merveilleux. C'est comme notre Dieu est fidèle, comme il est glorieux. Chaque mot a sa place correctement formulée. Et si en plus, elle nous est révélée par l'Esprit, alors nous éclatons. Alors il se passe quelque chose. Alors la mesure dépasse. Que Dieu nous l'accorde à tous par grâce. Amen. Levons-nous et adorons. Combien croient qu'il n'éteindra pas la mèche qui fume, qu'il ne brisera pas le conduit plié, bien au contraire, il redressera ce qui est tordu et fera revivre ce qui est en train de mourir. Car c'est ce qu'il a promis dans sa parole. Il a solidement établi le droit et la justice sur la terre. Et pas seulement cela, mais aussi en nous. Et nous en sommes reconnaissants. Combien sont ici aujourd'hui qui ont peut-être douté, qui ont été tiraillés par les circonstances ou quoi que ce soit, d'autres par des épreuves de toutes sortes. Vous avez ou nous avons attristé Dieu en ne lui faisant pas pleinement confiance en toutes circonstances, dans l'assurance qu'il mènera tout à bien dans la gloire. Et puis aussi ceux qui veulent aujourd'hui consacrer leur vie au Seigneur. Chère âme, notre Seigneur a lutté dans son humiliation en tant que serviteur. Donc, ici, Knecht, il a dit, mon âme est affligée jusqu'à la mort. Combien je voudrais que cette coupe, passe sur moi, au-dessus de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. C'est précisément pour cela que je suis venu à cette heure, au Seigneur. Que tu nous bénisses. Que tu sois avec nous, ô Dieu. Accorde-nous la grâce de surmonter les épreuves, même lorsque nous traversons les profondeurs les plus difficiles, lorsque les tempêtes et les orages grondent sur nous, lorsque les ténèbres s'installent et que tout espoir disparaît. Rappelle-nous alors le psaume 23. Tu es notre consolation, notre bâton, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre. Seigneur, tu vois ceux qui veulent te consacrer leur vie. Seigneur, tu les as déjà appelés. Je n'ai donc plus besoin de les appeler. Ils ont compris que c'est toi qui leur parles. Ils ont compris qu'il s'agissait d'eux. Et ils viennent maintenant vers toi. Ils regardent vers la croix à Golgotha. Ils te voient suspendu entre ciel et terre. Là-bas, ils te voient saigner. Fidèle Seigneur, c'est arrivé pour nous. Nous t'en remercions. Son sang couvre mes fautes. Il me rend lumineux et pur. Il me fait briller. Il me rend clair et pur. Ma volonté appartient à mon Dieu. Je vis pour Jésus seul. Seigneur, que telle soit notre décision à tous. Et que tu y donnes ton âme, ton amen. Tu as fait la volonté de Dieu sur terre pour nous faire entrer dans cette volonté de Dieu, afin que nous puissions aussi, par ta force, faire la volonté de Dieu, par ta puissance. Et maintenant, voici ce que tu fais, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu sur la terre. Agis, ô Seigneur, et fais-nous y demeurer jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, Seigneur. Je ne trouve pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. C'est comme si nous avions entendu tous les prophètes et accepté et reçu leurs enseignements et leurs révélations. C'est comme si, pour moi, c'est comme si nous avions entendu tous les apôtres et reçu en nous ce que tu as dit et écrit par eux. C'est comme si nous nous étions assis à tes pieds. Quelle est la certitude de ta parole? Comme elle est certaine, comme tes réponses sont claires au Seigneur. Je te remercie de tout cœur pour cela. Nous n'avons plus besoin de nous entretenir avec la chair et le sang, mais avec toi, qui est esprit. Et la parole est esprit et vie. Et tu révèles la parole au tien. Tu ne la laisses pas dans la tête et l'esprit, mais tu la mets dans le cœur. Et elle y devient une révélation vivante. Seigneur, je voudrais te remercier aujourd'hui face à ton peuple pour le grand privilège que tu nous as accordé d'entendre ta voix en ces derniers jours, de croire en ta parole, de nous laisser mettre en accord, en conformité avec elle, pour devenir ainsi une partie même de la parole, puis une partie ensuite de l'accomplissement, pour pouvoir devenir une partie aussi de l'accomplissement de ta parole. D'abord la promesse, et la conformité à la promesse, puis sa réalisation. Seigneur, bien-aimé, ton peuple est rassemblé en ce lieu. Et parce que tu es toi-même présent, le lieu est saint à cause de toi, qui est saint. Et tu dis, je suis saint, et vous serez saints. Tu as dit, sanctifie-les dans ta parole est la vérité. Bien-aimé Seigneur, tu nous as pénétrés par ta parole, de ta parole. Nous sommes devenus une partie de la parole. Nous nous sentons bien. Nous nous sentons en sécurité. Nous sommes sûrs dans notre Dieu. Sûrs dans sa parole. Dans son action et dans ce qu'il fait parmi son peuple. Sûrs de ta parole et de ton action dans ces derniers temps. Seigneur, ta troupe rachetée par le sang t'est confiée. Satan a perdu son droit. Il doit s'effacer, disparaître, il doit s'enfuir. Car c'est ainsi que c'est écrit. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Seigneur, nous sommes ici pour rendre grâce pour cette glorieuse délivrance. Oui, Seigneur, Sauveur, bien-aimé, je crois que les cœurs de mes frères et sœurs sont également remplis. Oui, nous sommes ensemble dans la simplicité sans forme, mais saisis par toi. Oui, nous pourrions exalter, crier de joie. Nous pourrions pousser des cris de joie, sauter et bondir, car tu as eu pitié de nous. Tu t'es révélé à nous. Nous te remercions pour cela. Tu as mené la prison en captivité. Tu nous as laissés libres. Tu as donné des dons aux hommes. Seigneur, en ta présence, nous revendiquons chaque âme perdue, qu'elle soit sauvée. Pour chaque âme perdue, qu'elle soit sauvée. Que cela soit fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, les âmes m'appartiennent. Et l'âme ne mourra pas, mais vivra. Et l'on ne se souviendra pas de toutes les iniquités. Seigneur bien-aimé, tu as aussi guéri toute maladie. Et que cela arrive, que tous ceux qui sont présents ici en fassent maintenant l'expérience personnelle, que ta puissance de guérison les traverse. Je te remercie pour cela. Cela est accompli. Alléluia. Ton nom merveilleux et glorieux. Tu as déjà fait aussi tout le reste. Nous t'en remercions de tout cœur. Oh, comme nous devrions te louer, élever nos voix, nos mains, nos cœurs, tout vers toi. Nous chantons, nous jouons ce cœur que mon cœur exalte de joie à toi, le grand souverain. Amen.